Je vous propose donc que nous abordions cette deuxième séance qui est donc consacrée l'art moderne en Occident entre 1920 et 1970. Je rappelle que ces deux dates, on l'avait dit la dernière fois, n'ont pas été choisies au hasard. Hein. 1920, c'est l'après-Première Guerre mondiale. 1970, c'est le bien après Seconde Guerre mondiale et le début des Trente Glorieuses. C'est donc une période où factuellement il se passe beaucoup de choses, mais socialement aussi. Et puisqu'il se passe des choses dans ces deux domaines, il est à prévoir sur le plan artistique, c'est pareil. Et de fait, la période est riche. Je rappelle que la dernière fois, on a exploré un mouvement qui est celui du pop art, dont on a pu voir qu'il avait des racines dans le dadaïsme, dans le surréalisme, que ses frontières, comme d'ailleurs dans tout mouvement, hein, sont un peu poreuses et peuvent aller dans d'autres directions. Rappelez-vous par exemple le parallèle qu'on avait pu faire entre une œuvre de Nikita Saint-Phalle et Jackson Pollock, notamment. Hein. On a vu aussi comment le pop art, qui est très souvent vu comme un mouvement, j'allais dire un peu jovial, un peu amusant, entre les nanas de Nikita Saint-Phalle justement et les boîtes de Campbell de Warhol, on y voit un courant... Oui, un petit peu amusant, rigolo. Et on a vu que, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, que c'est un courant qui, en fait, proposait une sorte de critique de la société de consommation, en fait, hein, avec ses grandeurs et ses faiblesses, et que, quelquefois, le message qu'il y avait derrière était peut-être un peu plus noir que ce que les couleurs rosâtres de ses œuvres pouvaient laisser penser. Hein. Alors, aujourd'hui, pour l'acte 2, on va travailler très différemment de la première fois. C'est-à-dire, j'ai décidé qu'on allait regarder un médium artistique, c'est-à-dire des sculptures. Donc, on va voir que de la sculpture aujourd'hui, à travers 25 œuvres à peu près, depuis le début jusqu'à la fin de cette période. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que la sculpture, comme la peinture, d'ailleurs, on parle souvent plus de peinture que de sculpture. J'avais envie de changer un peu. La sculpture, je crois, permet bien, à travers le choix que je vais vous proposer, d'avoir justement l'idée de l'évolution de l'art en Occident entre ces deux périodes. Donc, la sculpture, son évolution est très symptomatique, si vous voulez, de ce qui se passe à cette époque. Voilà, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Et notre séance va avoir, en fait, deux temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer, complètement mélangé, hein, la quelques 25aine de sculptures que j'ai choisies, que j'ai répertoriées, pourrait-on dire. Je vais vous les montrer, je vais faire un aller et un retour pour que vous ayez toutes ces sculptures en tête. Et après, qu'on aura fait cet aller-retour et vu toutes les sculptures, je vous interrogerai sur ce qu'il en ressort. Quelles sont les choses, à votre avis, les lignes de force qui ressortent de cette première vision rapide de quelques 25 sculptures. Puis après, on re-regardera les sculptures, il y en a une, pour essayer de voir qu'est-ce que c'est, peut-être quel est l'auteur, à quel moment on est, avant la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre. Voilà l'idée du cours d'aujourd'hui. OK ? Alors, premier temps de ce cours, je vais donc vous montrer, en faisant un aller-venu, les quelques 25 sculptures qui ont été, que j'ai choisies. Je vous les montre sans commentaire, hein, du début jusqu'à la fin. Je les montre assez rapidement, mais je vous dis bon, pour que les voyez quand même. Et donc je fais un aller et un retour, et après on en parle. Ça vous va? Bien. Commence. Allons-y.
En fait, il y en a 29 précisément. Hein. Ah, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne? Oui, moi aussi.
Oui,
non. Oui, il n'y a pas quelqu'un dans le couloir, oui.
Non, c'est pas pour nous. C'est trop jeune.
Un fantôme, peut-être. Il n'y a pas d'âge. Je ne vois que des jeunes. Bien. Vous avez donc vu dans un sens, on va voir dans l'autre. Encore une fois, hein, l'idée est, maintenant qu'on va repasser ça, hein, l'idée est d'essayer à travers cette somme de 29 œuvres que je vous montre, il y en a plus de 25 décidément, qu'on essaie de voir quelles sont les lignes de force, on va dire, hein, de la production sculpturale dans cette période, et peut-être déjà déterminer certains des sculpteurs qui sont ici représentés. J'ai entendu au moins un nom, bon, assez évident d'ailleurs, je pense, mais enfin, il y en a d'autres, hein. Sachant que toutes les œuvres correspondent à des sculpteurs différents. Il n'y a pas plusieurs œuvres d'un même sculpteur. OK ? On les regarde dans l'autre sens ? Allez, allons-y, on recommence. Voilà. Bien. Alors, on a vu cette sélection qui correspond à une sorte de Gotha, hein, de ce que rêverait de posséder, parce que ça vient de différentes collections. Hein. Tout musée d'art contemporain occidental qui se respecte, si j'ose dire. Hein. Qu'est-ce qui ressort, à votre avis, de cette sélection-là? Quelles sont les lignes de force que vous ressentez en voyant ça?
Une tendance. Personnellement, je vois deux tendances.
Oui.
Une tendance qui est un petit peu dans la continuité des sculpteurs du 19e, début 20e, c'est-à-dire encore avec des formes figuratives, c'est-à-dire on reconnaît des personnages, des animaux, et une autre tendance qui est complètement plus abstraite, on utilise un petit peu tout et pour faire de la sculpture.
D'accord. Donc deux tendances, on va dire une tendance un peu traditionnelle, enfin chacun comprendra, vous l'avez bien développé, et une tendance qui tourne le dos, entre guillemets, à cette tradition-là, hein, pour aller vers toutes les autres choses, des choses plus abstraites, hein, réutilisant parfois des matériaux, vous l'avez dit aussi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter?
On peut en avoir une troisième entre les deux, c'est-à-dire des sculptures qui sont... beaucoup moins réels, qu'on reconnaît quand même, mais qui sont
plus évocatrices.
C'est ça, donc vous intercaleriez entre ces deux tendances, entre l'abstraction décisive, hein, et une sorte de réalisme un peu post-traditionnel, quelque chose qui est un peu entre les deux, qui est ni vraiment de l'abstraction, ni vraiment la tradition, mais qui est un peu entre les deux. Ok ? D'accord ?
Un peu industriel.
Une dimension industrielle, oui. Oui.
Quelque chose d'aérien qui s'opposerait à quelque chose de massif.
Oui, important, intéressant aussi. Donc, voilà, deux choses à retenir.
Des éléments en mouvement.
Ah, des éléments en mouvement, oui. Donc, effectivement, le côté d'abord industriel, mécanique, hein, le côté aérien, bien un peu diaphane, comme ça, effectivement, et le côté mouvementé. Évidemment, là, je ne peux pas vous le rendre, mais il y a évidemment des œuvres, on en avait déjà parlé la dernière fois pour ça. Je précise qu'il est possible que certaines œuvres soient aussi d'artistes qu'on a vu la dernière fois, hein, dans quelques cas. Voilà, mais oui, donc le côté mouvement, d'ailleurs, qui va avec, qui peut aller avec les deux autres côtés, hein, le côté aérien d'une part et le côté mécanique de l'autre.
Ouais. C'est un peu aussi la libération de la créativité.
Oui.
On reproduit moins ce qu'on voit, comme ça,
ouais.
L'imagination.
Travailler la créativité.
Oui, effectivement. Je crois que votre remarque est intéressante parce que, d'ailleurs, on peut la joindre à la séquence historique que je rappelais tout à l'heure, que chacun comprendra bien, hein, qui évidemment peut correspondre aussi bien après la première qu'après la deuxième guerre, à un moment où on souffle, hein, et donc ça explose un peu dans tous les sens. Hein. Donc cette libération de la créativité, c'est effectivement intéressant, un phénomène qu'on croit pouvoir deviner, vous avez raison.
Et peut-être aussi une occupation plus large de l'espace. C'est-à-dire
oui. qu'on se... Oui, c'est-à-dire une sculpture est plus forcément un buste sur un sol. Quoi. Ouais.
Oui, voilà.
Oui. Effectivement, donc, ce qui va d'ailleurs avec la libération, on vient de dire d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire que la sculpture n'est plus effectivement un truc sur un socle et puis point barre, c'est quelque chose qui peut effectivement prendre de la place, ne pas être sur un socle d'ailleurs. Hein.
On ne peut pas donc, toujours tourner autour.
Voilà, on ne tourne pas forcément autour. Hein. Oui, oui. Donc il y a effectivement là aussi une sorte d'explosion de la créativité et donc de la manière traditionnelle de construire une sculpture qui est évidemment un truc autour duquel on tourne. Bon, il y a des reliefs aussi, hein, traditionnellement, mais...
Okay. C'est très épuré aussi.
Très épuré. Il y a des choses, en tout cas certaines choses, peuvent être effectivement très épurées. Ouais. Ça va un peu avec le côté aérien que vous évoquiez tout à l'heure. Hein. Des choses effectivement très très épurées. Alors, on a peut-être aussi l'inverse dans certains cas.
Oui, oui,
mais c'est vrai qu'il y a des choses, effectivement... et ça, c'est peut-être parce que le côté, j'allais dire, baroque, avec beaucoup de choses, on a des exemples dans l'art ancien traditionnel, donc ça, c'est moins étonnant. Mais le côté épur, où il y a très peu de choses, ça, c'est peut-être un courant relativement nouveau, d'une certaine manière. Oui. OK.
Large choix de matériaux.
Pardon.
Les matériaux sont très divers.
Oui. Matériaux divers, ouais. Là aussi, la créativité explose, hein, parce que... Bon, traditionnellement, la peinture, bah, c'est de la peinture sur toile, point. Et la sculpture, c'est un bloc de marbre, un bout de bois, et puis on taille dedans. Là, voilà, on va vers bien d'autres matériaux, effectivement. Hein.
Oui, parce qu'on intègre le plastique, là, bon, à travers les mannequins.
Absolument.
Il y a l'histoire de... Alors, je vais dire étagères, entre guillemets.
Oui, oui, oui.
Il y a la répétition des étagères, oui. Et les couleurs vertes différentes.
Ouais, 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 ouais. Oui, oui, absolument. Oui, oui, absolument. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, très juste. Est-ce que d'ailleurs, à travers ces œuvres-là, il y a des œuvres qui vous paraissent pouvoir être liées à un courant artistique bon, la dernière fois, enfin, il peut partir, mais on a pu, au détour de telle ou telle œuvre, parler du dadaïsme, parler du surréalisme, vous vous rappelez, hein, ou d'action painting, du dripping, puisqu'on a évoqué Pollock, mais on n'a pas vu l'œuvre de Pollock, mais bon, peut-être qu'on en reparlera plus tard, du dit Pollock, d'ailleurs. Hein. Mais est-ce que là, il y a dans ces cultures des œuvres qui vous paraissent collées à un courant artistique que vous connaîtriez ou dont vous...
La Vénus au tiroir.
Oui, la Vénus au tiroir.
Il y a Giacometti.
Oui. Alors Giacometti, effectivement, hein, vous avez reconnu l'œuvre. C'est sans doute la plus reconnaissable de toutes, d'ailleurs, hein, effectivement. La Vénus au tiroir, vous l'appelez. D'ailleurs, c'est son nom. Vous, je pense que vous avez une idée de l'auteur aussi, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et elle concernera, elle s'accordera à quel domaine artistique, à quel surréalisme, okay. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres choses que vous avez pointées?
Il n'y a pas un Mayol, là.
Peut-être bien.
C'est quoi ton réalisme?
En tout cas, évidemment, Mayol, si Mayol il y a, mais je crois que vous avez raison, oui, il est un artiste qu'on pourrait mettre dans cette tradition dont vous me parliez tout à l'heure. Hein. Encore que c'est une tradition qui n'est peut-être pas si traditionnelle, justement. Mais quand même, effectivement. Donc le réalisme, alors on va en reparler, c'est peut-être pas tout à fait un courant du XXe siècle, mais quand vous prenez ce mot, je crois qu'on voit bien ce que vous voulez dire. C'est quelque chose qui... Ben, reprend la réalité des choses, quitte à l'interroger quand même. Hein. Alors, ce que je vous propose peut-être, justement, c'est maintenant qu'on re-regarde tout tranquillement et qu'on essaie de voir un petit peu ce qu'il en est. Et encore une fois, on va essayer de définir un peu quel est le style, je ne parle pas trop de chaque œuvre, hein, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle va nous dire. Peut-être quel est le sculpteur, dans certains cas, on a déjà dit certains, hein, Mayol, Dali, etc., Giacometti. Pour d'autres, on essaie également pour toutes de voir si on est avant la Deuxième Guerre ou après, hein, si on est dans l'entre-deux, si vous voulez, ou si on est après. D'accord. Alors. Comment on rappelle ça? Alors là, au niveau date, on est après, ok. Je fais le mélangement. Ouais. Donc là, on est devant une œuvre qui est là d'après la Deuxième Guerre mondiale, ok, on verra ce qu'il en est après. Pour l'instant, je ne dis rien, bien sûr. Bien. Cette œuvre, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Pardon? Contraste, oui. Oui. Alors là, pour le coup, effectivement, la légèreté dont vous parliez tout à l'heure, l'espèce de pureté aussi dont vous parliez, hein, côté très. Voilà, ça accorde tout à fait une œuvre comme celle-là. Hein, ouais.
Il y a peut-être un mouvement possible.
Oui, il y a un mouvement possible. Ouais. D'ailleurs, un mouvement peut-être de l'œuvre, mais de nous aussi. Et justement, si on bouge nous, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Si on bouge nous autour de ça. Vous voyez, les deux trames s'entremêlent et donnent quelque chose de spécial.
C'est le matériau.
Pardon ?
Quel est le matériau ?
Alors, ce sont des... Ben, à votre avis.
C'est des fils.
Alors, c'est un petit peu plus que des fils, quand même. Oui, c'est des baguettes.
Oui, donc rigides.
Pardon ?
Elles sont rigides.
Rigides, oui. Oui, des baguettes rigides et qui sont, laquées, enfin peintes, si vous voulez.
Elles sont articulées avec le support.
Alors, je crois que c'est articulé, que ça bouge un peu, mais de manière rigide, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'en haut, vous voyez peut-être, il y a un petit élément pour les tenir, donc elles tiennent. Quand ça ne bouge pas, mais voilà, elles peuvent un peu bouger, mais pas... Voilà, ça bouge doucement. Oui. L'élément blanc, il est derrière. Il est derrière, oui. Il est derrière, sur le mur, mais en avant du mur derrière, si vous voulez. Voilà.
Ça mélange aussi une sculpture déjà fait transparente et du graphisme.
Oui.
Ça mélange un peu.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. Ça revient d'ailleurs à ce que vous disiez au tout à l'heure, l'explosion de la créativité. C'est-à-dire qu'on est quelque chose qui est bien de la sculpture, parce que c'est en trois dimensions, donc voilà, hein, c'est pas de la peinture, quoi. Hein. Et pourtant, puisqu'on a quelque chose de l'ordre de lignes qui se détache sur un fond blanc, il y a une dimension graphique. Donc effectivement, voilà quelque chose qui fait un peu exploser les frontières, dont on a vu la dernière fois qu'elles explosaient beaucoup, de toute façon, hein. Entre les médiums traditionnels.
Si vous voulez, après la guerre, la vie ne tient qu'à des fils.
Effectivement.
Oui, c'est vrai.
Effectivement. Et à deux fils, hein, y a les fils qui tiennent les espèces de structures bleues à gauche, noires à droite, hein, mais les fils qui tiennent les barres qui sont sur chacune des structures. Hein. Ouais. Oui, il y a une dimension de fragilité, vous avez raison là-dedans. Hein. C'est assez fragile. C'est fragile et solide.
Le noir est plus fin que le bleu.
Peut-être.
Oui,
c'est possible. C'est possible, c'est possible.
C'est l'impression.
C'est l'impression qu'on a, oui. Alors, dans la réalité, je ne saurais pas vous dire, mais c'est l'impression qu'on a.
Ouais, c'est vraisemblable.
Donc, une œuvre, effectivement, très... Alors, peut-être de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Une œuvre qui expose un peu les visions traditionnelles qu'on a de l'art. On est dans une sculpture, mais qui pourtant a une dimension graphique. On est devant une chose qui est un peu diaphane, un peu fragile, et qui pourtant est fait de matériaux durs, du métal. Quelque chose qui, je dirais, suggère le mouvement de l'œuvre elle-même, mais des gens autour de l'œuvre. Et c'est bien ça aussi qui crée le rapport à l'œuvre, puisque les deux couleurs, le bleu et le noir, s'intermêlant sur un fond blanc, risque évidemment de créer des effets, si vous voulez, hein, un peu particuliers. Hein. Donc voilà qui recouvre beaucoup des choses que vous aviez dit d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Vous avez une idée de, je crois, est-ce que vous donneriez, pour une œuvre comme celle-ci, il y en a peut-être d'autres qui vont aller avec, hein, est-ce que vous donneriez un nom à un courant qui comprendrait ce genre d'œuvre?
Pour
Sacalder.
Il y en a une de Calder.
Ouais. Ouais, vous avez raison. On pense à Calder, mais c'est pas Calder. Effectivement, Ptolemy a une œuvre très typique. Je dirais Calder. Bon, ben, on reparlera de tout ça d'ailleurs tout à l'heure. Une idée d'un nom, peut-être. Non, je ne vais pas demander. Donc Calder, mais non, vous avez raison. On verra. Surréaliste. Ça, effectivement, je crois que on peut dire ça. Hein. Une chose très bizarre. À vrai dire, c'est une sorte de papier mâché. Vous savez, comme les vieux mannequins. C'est articulé.
Oui,
c'est du papier mâché peint, si vous... ça se bouge. Alors, en l'occurrence, si vous mettez à bouger ça, vous aurez quelques problèmes dans le musée de Saint-Paul. Ah, ça peut se bouger, oui. Donc, effectivement, il y a une dimension très surréaliste, parce qu'on a là un personnage avec un buste et deux bas du corps. C'est donc étrange. Oui, il y a un côté un peu insecte, effectivement. Il y a un autre côté, d'ailleurs, dans ce... Pardon ?
Je trouve que c'est fétichiste.
Ah, il y a un côté fétichiste, c'est vrai. Oui. Et puis, il y a un côté qui rend, je trouve, cette œuvre d'autant plus ambigu, parce que on a dit que c'était en papier mâché, ok ? Mais ça fait penser aussi à quoi ?
À des poupées.
Or, une poupée, a priori, c'est bien mignon, c'est pour les petites filles. Or là, vous avez parlé du terme fétichiste, c'est tout l'inverse, d'une certaine manière. C'est donc une poupée, mais qui est tout sauf une poupée, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça fait aussi penser à, je disais tout à l'heure, à un mannequin. Mais un mannequin, ben, ça doit avoir deux bras, deux jambes, enfin, vous voyez, quoi. Or là, évidemment, ça ne colle pas, quoi. Donc, voilà, il y a un côté désagréable. Très, très, très ambigu. Oui,
c'est pas ça.
Puis le regard aussi.
Donc effectivement, on est là devant une œuvre qu'on peut classer parmi les surréalistes, hein, et qui prend un thème mignon, charmant, la poupée, et qui dérive, si vous voulez, tout à fait dans autre chose. Ça, c'est très surréaliste. Hein. Rappelez-vous de Duchamp la dernière fois, dans cette œuvre que j'avais mis au départ, parce qu'elle ouvre quelque part le pop-art, même si c'est une œuvre surréaliste, hein, mais avec le fer à repasser, avec ses clous, hein, c'est le même genre de choses. Mais ça, surréaliste, évidemment, c'est ça leur but. Il titille, si vous voulez, là, le regard qu'on a. Hein.
Parce qu'il y a l'idée d'une chute, quand même, c'est ces gens qui sont désarticulés. Ce corps à terre.
Oui, oui.
De loin, je ne sais pas, mais l'expression aussi de la...
Oui, du visage, oui. Voilà, ouais. Mais ce que vous dites est important, évidemment. Il y a le côté chute, c'est-à-dire on a l'impression qu'elle est désarticulée, donc qu'elle est tombée de haut, ce qui fait que c'est en morceaux, tout ça. Hein. Et effectivement, il y a un problème au niveau de du visage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un œil un peu différent de l'autre. Hein. Il y a un côté traumatisé. Quoi.
Et que le buste ne va pas avec le bas. Oui.
Mais effectivement, le buste ne va pas bien avec le bas, on ne comprend pas comment les deux s'articulent. Hein. Tout ça est décidément très étrange, mais étrange au genre, un fantastique un peu lourd.
On verrait ça dans un film de serial killer,
oui.
Ça n'étonnerait pas.
Oui, c'est ça. Oui, il y a un côté horrible.
Ça se veut aussi... un peu pornographique. Hein.
Oui.
C'est une jeune fille avec des chaussettes.
Oui, il y a un côté viol. Mais c'est le côté fétichiste aussi dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il y a donc un côté jeune fille violée. Enfin, oui, absolument. Alors, est-ce que donc là, vous êtes d'abord avant ou après la Deuxième Guerre ?
Avant.
Avant ? Ouais. Avant, donc plutôt les années 30, on va dire, 20-30.
Je dis les années 50.
Ou 50 plutôt.
À cause des chaussures.
Ouais.
C'est ça, c'est des petites chaussures vernies.
Ça peut être fait dans les années 50 avec des vieilles chaussures, ou fait dans les années 30 avec des chaussures contemporaines. Compliqué, hein. Une idée d'un nom, peut-être ?
Non.
Allez.
Voilà, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Bayeul. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette œuvre-là ?
C'est très grand.
Pardon ?
C'est très grand.
C'est assez grand, oui. Vous la connaissez d'ailleurs, cette œuvre-là. Vous savez, au Louvre, en jardin des Tuileries, hein, c'est une œuvre qu'on voit volontiers. Elle n'est pas toute seule d'ailleurs. Hein. Mais alors, qu'est-ce que fait Bayeul dans une œuvre telle que celle-ci ? Vous l'avez un peu dit déjà tout à l'heure. Hein. Voilà. Effectivement, une position originale.
Il personnifie des lieux, des éléments, la Méditerranée, des choses.
C'est ça.
C'est l'eau.
Je crois que ça s'appelle le fleuve, il me semble. On va voir tout à l'heure, je crois que ça s'appelle le fleuve. Donc, effectivement, c'est, on pourrait presque dire que c'est quoi, genre, parce que c'est une figure qui personnifie quelque chose.
Rivière.
Pardon. On pourrait dire que c'est une sorte d'allégorie. C'est-à-dire que c'est une figure qui personnifie quelque chose. Donc, on pourrait dire qu'il y a une dimension allégorique, effectivement. Hein ? OK ? Et qu'est-ce qui est intéressant encore dans cette œuvre, dont vous disiez tout à l'heure que quelque part elle était, vous mettez des guillemets, hein, réaliste ? Ce qui n'est pas faux, hein, ça représente vraiment une femme, alors une femme généreuse, hein, une femme, bon, dont on reconnaît, il n'y a pas de problème, hein, on est là dans la tradition où vous avez parlé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que fait malgré tout Bayeul pour, tout en étant dans la tradition, offrir quelque chose qui est peut-être pas si traditionnel que ça. Voilà, le côté infiniment contorsionné du corps, oui. Vous disiez, pardon ?
C'est positif.
Oui.
C'est les mouvements de la rivière.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, il essaie de montrer le mouvement de la rivière en faisant ce corps contorsionné en tous les sens. Donc, évidemment, ce qui est là. Curieux, enfin intéressant peut-être, c'est que voilà une représentation très traditionnelle, qu'on pourrait presque dire académique hein, quand même, hein, et qui est, si vous voulez, contrebalancée par le positionnement même de la personne, quoi, qui non seulement se contorsionne, mais ça à l'époque baroque, on en a des contorsions, hein, enfin là c'est une contorsion, voilà, et là elle est presque prête à sortir de son socle, vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? C'est-à-dire que finalement, il fait du nouveau aiguvieux. Donc, en ce sens, et les unes et les autres, vous aviez bien évoqué ça tout à l'heure, on est dans une œuvre, évidemment traditionnelle, enfin voilà, mais qui, j'allais dire, remet le couvert, vous voyez. C'est ce que je disais, je crois, à un instant, on fait du neuf avec du vieux. Donc, c'est intéressant, parce que c'est pas si évident, quoi. Hein, parce qu'après tout, représenter une femme nue, on fait ça depuis longtemps, hein. Mais là, de telle manière que ben, c'est pas possible que ce soit un autre moment que celui-là.
Mais quand même, elle ne dérangerait pas à Versailles.
D'une certaine manière, oui, vous avez raison. Quelque part, elle serait autour des bassins, devant le château. Alors, les œuvres de sculptures de Couvesbeau et autres à Versailles sont malgré tout plus statiques que ça. Hein. Mais vous avez raison, il y a une dimension classique.
Oui, oui.
Au sens plein du terme, c'est vrai. C'est vrai.
En la mettant debout, elle est rien.
Oui, debout, même couché, vous savez, sur les bassins de Jalouté, vous les connaissez, il y a des figures de dieux fleuves, déesses fleuves d'ailleurs, qui effectivement font penser à ça. Mais debout, évidemment, debout, ça a l'air très bien aussi, ça pourrait être tout à fait compliqué. En fait.
Elle est gardienne de but féminine.
Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Vous connaissez peut-être une autre œuvre de Bayeul qui s'appelle Méditerranée, qui représente une femme, alors exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est assise. Alors je ne vais pas.
Si
bon. Mais voilà, elle est assise et elle est plus ou moins comme ça. C'est un peu l'inverse, elle est statique, refermée sur elle-même, et à la différence de là où effectivement le mouvement évoque le mouvement de la rivière. Quoi. Dans Méditerranée, son côté statique, refermé sur elle-même, évoque justement cette espèce de calme méditerranéen, voilà, cette bien d'huile. Donc, évidemment, le mot allégorique va assez bien, je pense.
Mais non, il y a une ambiguïté, pas une ambiguïté, mais il y a une dualité, pardon. Il y a le style, enfin, l'attitude complètement désarçonnée, et puis de l'autre côté, si on regarde la tête, ça ressemble un peu au statut soviétique de l'époque.
Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Ben, les statuts soviétiques qui, d'ailleurs, comment dire, travaillent justement cette dimension, alors là, super traditionnelle, super académique. Absolument, oui. Oui, oui. C'est vrai. Bon. Alors, suite des événements. Alors là, dans une œuvre effectivement plus minimaliste, osons le mot. Ah, mais d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé avant ou après la guerre ? Avant ? Avant ? Alors là, une œuvre plus minimaliste, effectivement, on parlait tout à l'heure de légèreté, de côté aérien, etc. Bah, voilà, qui s'applique à cette œuvre. Hein. Pardon ?
Des jeux de lumière,
absolument.
Ça doit pouvoir bouger.
Alors, c'est une œuvre qui peut bouger et qui, alors très très faiblement, de toute façon, les tiges elles-mêmes sont des tiges solides, mais un peu mouvantes, vous voyez. Effectivement, il peut y avoir des jeux de lumière, notamment dans le truc là-haut.
Dans le balancier.
Voilà.
Balancier.
Oui, 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 voilà. Oui, le balancier, puis cette chose là-haut peut éclairer. Ou alors l'autre. Enfin bref, il y a des espèces de clignotants.
Oui,
il y a un côté roseau.
Oui, mais celui de droite, c'est plutôt un
éclairant. C'est une espèce d'éclairant, oui. Ouais, le truc qu'on passe dans les cheminées ouais, pour que ce soit propre. Et c'est à gauche, qui a, à gauche, oui, qui a un truc qui doit être un signal électrique.
Ah oui, c'est haut.
C'est comme un petit
feu. Ça fait pour une taille humaine, je dirais.
Ah ouais.
Là, le côté graphique que vous épingliez tout à l'heure,
oui.
Je vois que...
En plus, il y a des ombres.
Oui. Oui, 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 les ombres derrière jouent avec, volontairement. Ouais, ouais.
Ouais. Ouais. Il y a des angles droits qui sont intéressants.
Oui. Alors là, c'est pareil, vous rapprocherez, par rapport à ce qu'on a vu, par exemple, est-ce que vous rapprocheriez ça de d'autres choses?
La première,
la première, la première, oui. Effectivement, on voit là qu'il y a une sorte de pointance, hein, ok. Et l'idée, c'est finalement quoi là-dedans?
L'idée d'équilibre.
L'idée de l'équilibre ou du déséquilibre?
Non, d'équilibre, mais...
Oui.
Faible, peu faible.
D'équilibre précaire.
Précaire.
C'est ça. C'est ça, ça tient, et on se dit, une espèce de fragilité. Peut-être ce qu'on avait pointé tout à l'heure avec ces bouts de, enfin, ces petites choses métalliques qui tenaient des structures dont on se dit, est-ce que ça va pas s'écrouler, quoi. Une espèce d'équilibre précaire, oui. Oui, c'est vrai.
C'est très minimaliste par rapport à l'autre.
Ouais.
Parce que
oui.
Parce qu'elle avait beaucoup de tiges,
ouais.
Celle-ci, vraiment, il y a trois.
Oui.
Donc c'est très, très minimaliste.
Oui. Oui, oui, effectivement, l'autre était baroque à côté. Hein. Oui.
Il y a un arc.
Oui, il y a un côté arc dans le fond. Donc vous y voyez avant tout, d'après ce que j'entends, hein, quelque chose qui a pour but de travailler une esthétique, je dirais.
Oui,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas là l'idée de montrer, je ne sais pas quoi, moi, pas faire revenir la dame d'hier, mais de montrer une chose particulière. Non. C'est avant tout un projet esthétique.
Oui.
Là, on montre des formes, un mouvement. Alors, il y a derrière cette idée de fragilité dont vous parliez, qui revient par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est là, et en même temps, c'est un peu diaphane.
Oui, en même temps, on peut faire un bouquet avec autre chose que des fleurs.
Oui.
Donc, ouais. Je me moque un peu de vous. Vous voyez, je suis capable de faire autre chose qu'avec les fleurs.
Mmh. Ben, vous y voyez une dimension de moquerie?
Non. De détournement, là aussi.
Oui, c'est du détournement.
De détournement de l'objet usuel qui serait le goupillon.
Ouais. Oui, parce que évidemment, le goupillon de cheminée, hein, pas le goupillon, pas le sable de goupillon, c'est un aimant, c'est un ready-made, quoi. Hein, c'est un truc réutilisé, hein. Mmh, effectivement. Hein. Et vous en parliez tout à l'heure, quelquefois il y a des matériaux repris, réutilisés, donc vous avez raison. Hein. Mmh. Et vous, donc, vous y voyez aussi une dimension ironique. Et un peu. On va faire un bouquet de fleurs métalliques.
Je veux dire que pour moi, ce mouvement a beaucoup d'ironie.
Oui. Ouais. Ça
concerne comment?
Oui, non, non, mais c'est sûr. C'est sûrement, en l'occurrence, par rapport à cet artiste, je suis pas sûr, mais l'ironie et l'humour, là, on en a parlé beaucoup la dernière fois, hein, quand on a parlé du pop art, fait partie du truc, hein, d'ailleurs, fait partie de la vie, et on voit pas pourquoi s'en priver, hein, absolument.
Il y a quand même une idée entre rigidité et fluidité.
Une différence entre rigidité et fluidité.
Oui, rigidité.
Oui.
Par exemple, vient l'angle à 90 degrés,
est-ce
qu'elle a
oui. Oui. Oui, oui. Oui, je trouve que c'est très juste, ça aussi. Et ça participe de ce qu'on a dit tout à l'heure, cette espèce de fragilité. Enfin, il y a un angle. Et puis en même temps, on sent que ça brinque balle. Donc, cette espèce de côté dur, mou, fragile, solide, mouvant, et bien là, du métal, quoi de plus contondant. Et en même temps qu'il n'y a pas rien à tenir, c'est effectivement une espèce d'ambiguïté là qui joue.
Il y a un jeu avec l'ombre aussi.
Oui, l'ombre, c'est important.
Mais est-ce que c'était voulu, le jeu avec l'ombre?
Oh, alors, peut-être pas. Évidemment, si vous les mettez plus ou moins devant le mur, ça joue plus ou moins. Mais je pense que, comment dire, ça fait partie quand même de l'idée. Même si, encore une fois, je ne suis pas sûr que l'artiste dit vous me mettez ça à un mètre du mur. Pour qu'il y ait l'ombre, vous voyez. Ça, je ne pense pas. Je ne dis pas, mais je ne pense pas. Mais je pense que c'est tant mieux, si j'ose dire. Si ça se passe. Connaissant d'autres. Vous avez une idée de l'auteur? Non. Une période? Avant, après?
Après. Oui, oui.
Ok.
Ça fait penser à Dali, au taureau.
Ça fait penser à
au taureau de Dali. Non, de Picasso, pardon.
Ah, de Picasso.
Le taureau de Picasso.
Ah, le Minotaure de Picasso, oui. Parce que là, on a un taureau et Picasso, le côté taureau.
Oui,
bah,
hein.
Il y a aussi un poisson.
Il y a un poisson, non?
Ben, ouais, il y a quelque chose devant, effectivement. Oui, on a l'impression de voir une queue de poisson.
Une sirène, non?
Une sirène?
Ouais.
Donc un taureau et une sirène. Ok.
On n'est pas dans le minimalisme, là.
Non, on n'est pas dans le minimalisme. D'ailleurs, c'est quoi comme matériau, là?
C'est du bronze.
Ah bon, hein. Là, on revient vers la bonne sculpture, hein, une sculpture en bronze. Voilà, là, on revient à nos
traditions.
Voilà, à nos traditions, si je veux dire. Hein, voilà.
En regardant rapidement, ça fait chinois, quand même.
Un côté chinois. Pourquoi pas?
C'est grand.
Ouais, ouais, non, mais je vois ce que vous voulez dire.
Il y a même une tête d'un de lapin.
Il y a même
une tête de lapin en haut à gauche.
En haut à gauche. Ah, c'est pas la tête du taureau?
Ouais, la tête du taureau.
Non, vous voyez une tête de taureau un peu lapin. Ah, le taureau.
Regarde, c'est vrai, il y a l'abstraction.
C'est-à-dire, ici, vous voyez une tête de lapin?
Non, plus haut, plus haut.
Ah, là.
Voilà.
D'accord.
De profil.
D'accord, je vois. Alors, je pense que c'est l'oreille, en fait, là. L'oreille, c'est l'oreille du taureau. Et c'est l'œil du taureau. C'est l'oreille et l'œil du taureau.
Mais
c'est vrai que c'est un côté tête de lapin.
Il lui manque pas une focale.
Ben, c'est vrai qu'on a du mal à voir ce qui se passe.
On dirait qu'il y a trois
pas. Oui, c'est. Autrement dit, ce taureau, qui a l'air parfois d'un lapin, c'est pas un taureau.
Classique.
Voilà, si classique que ça. Hein.
C'est pas un charolais.
C'est pas un charolais clair. Hein. C'est un taureau un peu spécial. Donc, on est devant une œuvre bien. Bon, un bronze, voilà, on est. Mais on voit quand même que, finalement, ça refait le compte du maillot de tout à l'heure. Quoi. C'est-à-dire qu'en plus gonflé encore, d'une certaine manière.
C'est
hein.
Sur la mission que c'est un petit côté inachevé.
Oui, alors, oui. Effectivement, il y a un côté un peu inachevé. C'est pas fignolé, c'est pas lissé comme le maillot de tout à l'heure. Hein. Il y a un côté, effectivement. Et on a vu que ce taureau, il n'était pas. Voilà, dans le détail, c'est pas ça. Quoi, hein. Enfin, c'est pas ça. C'est ça, mais pas vraiment un taureau. Quoi, après. Ouais. Et évidemment, un côté esquisse, un peu. Hein. Ouais.
Ça fait un peu métamorphose.
Un peu métamorphose, oui. Un taureau qui se transfigurerait.
Ouais, ouais.
En poisson, peut-être.
J'ai une poupée tout à l'heure que de Mayol. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ça vous rappelle plus la poupée que Mayol.
Ah oui.
Oui, c'est... Moi, si, c'est torturé. Oh, ouais.
Non, c'est moi qui
l'ai rasé.
Non,
c'est moi qui l'ai rasé. L'autre, ça fait peur. Mais attends,
oui. On est peut-être on est peut-être sur le chemin. C'est-à-dire que... On est dans Mayol, entre guillemets, parce qu'on est en avant quand même quelque chose qui... d'ailleurs, il y a un sujet. Vous ne l'avez peut-être pas vu encore, mais il y a un sujet.
Oui, mais en fait,
Donc il y a une sirène qui enlace un taureau. Oui. Zeus. Ah. Mais c'est qui ça? Une mutation. Vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de métamorphose. Donc Zeus se transformerait en taureau. Et pour faire quoi? Pour séduire.
Une
des multiples, mais enfin, il y en a quand même une particulièrement qui l'a séduit en se transformant en taureau.
Europe.
Donc on aurait là peut-être Europe qui est enlevée par Zeus. Donc voilà qui nous rapprocherait encore de ce vocabulaire d'une certaine tradition. C'est-à-dire l'enlèvement d'Europe. Alors ça, comme tradition. Donc on aurait un médium traditionnel, un sujet traditionnel, une manière de le montrer qui est les moins. Où il y a cette espèce d'idée de métamorphose qui s'opère sous nos yeux, et qui fait qu'on est à mi-chemin entre Mayol et la poupée d'Arthur tout à l'heure. Alors une idée d'un nom et une idée de avant-après.
Avant.
Un nom peut-être.
Dali, peut-être.
Dali.
Picasso.
Picasso. Eh bien, on verra.
Ah,
je vous ai peut-être déjà fait le coup.
Oui.
Alors, une étagère. On a parlé d'étagère déjà tout à l'heure. Des guillemets, il y avait des guillemets. Mais ça fait penser à ça, effectivement.
Oui, mais bon.
Mais c'est peut-être pas tout à fait ça. D'ailleurs, pour mettre des bouquins dans la partie supérieure, il faudrait un grand escalier. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là? Quelque chose de très
géométrique.
Voilà. Des parallélépipèdes qui s'étagent en une étagère, les uns au-dessus des autres. Okay. Voilà, c'est une sorte de colonne. Alors, sauf qu'elle, vous avez vu qu'elle elle flotte. Elle ne tient pas en bas, elle ne tient pas en haut, elle flotte. Une colonne flottante.
Il y a un jeu avec la lumière.
Un jeu avec la lumière, pour le coup.
Oui,
alors visiblement, effectivement, le vert n'est pas de la même couleur. J'avoue que je n'arrive pas à savoir si les verts ne sont pas de la même couleur parce qu'ils ne sont pas de la même couleur, ou s'ils ne sont pas de la même couleur parce que la lumière fait qu'ils sont de la même couleur. Voilà, je ne sais pas. Moi, je... Pardon ?
En quelle matière est-ce du carbone vert ?
À votre avis.
Carbone vert.
Alors, en fait, c'est... Alors, effectivement, il y a du métal, la partie basse c'est du métal, je crois que c'est de l'aluminium, la partie basse de ces caissons, si vous voulez.
Ouais.
Et les côtés, d'après ce que j'ai vu, c'est du plexiglas de
creux. C'est creux ?
Je crois que l'intérieur est creux. Donc, si vous voulez, vous avez deux plaques métalliques qui sont rejointes par un pourtour de couleur verte qui est du plexi teinté.
Et il y a de la lumière à l'intérieur ?
Non.
Non, c'est une étude de perspective.
C'est quelque chose qui, évoque votre perspective très, très orthodontée.
Ça fait penser, alors, si c'était noir à Soulages, avec ce jeu de la lumière qui fait apparaître les couleurs très différentes selon...
Oui, ça, c'est... C'est effectivement la même idée que Soulages m'a développée en peinture, lui. Hein. C'est-à-dire que finalement, le noir n'est jamais tout à fait noir, c'est la lumière fait que. Voilà. Donc là, effectivement, voilà quelque chose qui est à la fois simple, rigide, etc., mais qui, en fait, est déconstruit toujours du fait de la lumière, du moment, enfin bref. Ouais. Alors, ça, si vous aviez un nom d'un courant, vous diriez quoi ? Donc, art abstrait géométrique. Ok. Avant, après ?
Après.
Après, un nom peut-être ? Pas de nom ?
Ikea.
Ikea. Ikea. Je pense que Ikea, c'est plutôt inspiré de ça qu'un peu. Bien vu. Alors. Donc une faux, oui.
Métallique. Sur un socle en pierre.
Oui, un socle en pierre. Ouais, ça c'est important aussi.
Il y a un côté menaçant.
Oui.
Ben, la faux. Hein.
Oui, la faux, c'est... Ça ne se veut pas un homme qui tient un fusil.
C'est pas une faux, c'est une faucille.
Moi je vois un homme. Oui, une faucille.
Ah oui, il y a un fusil en bas, peut-être. Un fusil vertical. Donc ce que vous voyez là, c'est une faux, peut-être un fusil, en tout cas des éléments un peu, on va dire, contondants, agressifs. C'est du métal sur de la pierre. L'important, c'est que vous voyez que le socle n'est pas simplement un socle pour... il fait partie de l'œuvre. Hein.
Rigide.
Une sorte de rigidité, ouais.
C'est soudé.
Et d'ailleurs, comme certaines œuvres qu'on a déjà vues, ça remploie des matériaux, des objets. Je pense à la faucille, par exemple. Hein, comme notre goupillon de tout à l'heure. Bon. Là aussi, si vous aviez rapproché ça de certaines œuvres qu'on a vues ou pas, vous diriez quoi ? Vous mettriez ça quand ?
Si, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu la semaine dernière. Avec cette période de Pop-Art et un peu d'Adaïs, parce qu'il réutilisait justement des éléments de guerre.
Ça ah oui, vous pensiez à... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, oui.
À des armes.
Oui, oui.
Donc on ferait bien la...
Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Cette réutilisation d'éléments, quitte à faire des machines un peu improbables.
Exactement.
Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Bon, avant, après ?
Après.
Un nom ? Pas non. Tu as plus de chance avec ça.
C'est du bois, ça.
Alors, j'ai cru que c'était du bois.
Non, la pierre,
c'est de la pierre.
C'est de la pierre.
C'est une pierre un peu jaune, vous voyez, mais qui fait penser à du bois.
Mayol qui serait
passé
dans
le monde. Mayol passait à la machine.
Oui, dans une autre dimension.
Oui.
Ça me fait penser aux artefacts qu'on trouve dans les grottes préhistoriques de femmes de la préhistoire. Elles ont cette forme-là, à peine ébauchée.
Oui, vous pensez aux déesses mères. On les appelle comme ça.
Oui, il y a un sculpteur qui fait ça, des formes, on a l'impression des corps étendus. Mm-hmm.
Oui, allez-y.
Moore.
Oui. Qui est Moore ?
C'est qui ?
Un sculpteur, c'est-à-dire.
Donc un sculpteur, oui. Vous le placez à quel endroit ? Bon, on n'en a pas parlé avant de l'origine des sculpteurs, mais en l'occurrence, son petit nom, ce serait quoi ? Henry. Henry. Henry Moore.
Mais il fait surtout ses formes, c'est surtout en fait sa particularité, c'est. Étendue,
Il y a des
parcs, etc. Ça doit être
oui. Alors vous avez raison, hein, c'est une œuvre de lui. C'est une œuvre de Henry Moore, qui est donc un artiste britannique, hein, anglais. Oui, britannique et anglais, je crois, en l'occurrence. D'ailleurs, c'est Sir Henry Wood. Le roi n'est pas là, mais ouais, je me permets de le représenter. Hein, voilà. Et donc, c'est une œuvre de lui. Alors, c'est intéressant parce que vous parliez de Mayol tout à l'heure. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, je crois que le parallèle est pas mal. Quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un peu la même idée. Quoi. On prend l'idée éternelle, la représentation sempiternelle d'une femme nue. Bon, puis, effectivement, la préhistoire, on fait ça. Hein. Et là, on va encore proposer quelque chose de nouveau qui passe par les idoles, entre guillemets, préhistoriques, qui passe par... vous savez, ces sculptures faites dans les Cyclades, deuxième, troisième millénaire avant notre ère, où il y a des choses extraordinaires de, entre guillemets, modernité, truc en marbre inouï. Et Moore regardait absolument tout ça. Hein. La Vénus de Willendorf, c'est le bras en pouille, etc. C'est une petite statuette préhistorique. Vous savez qu'on vient d'en trouver toute une série à Amiens. Hein. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. Sans doute un atelier de fabrication de ces figures. Et ça, c'est incroyable. C'est une découverte majeure. Hein. Et donc, voilà, Moore est quelqu'un qui, vous avez raison, a complètement regardé ça. Hein. Donc c'est évidemment très, très intéressant.
Un côté très lisse, oui. Mais en courbe douce.
Oui, 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 oui. Absolument. Oh, c'est assez grand, hein. Alors je n'ai pas... Voilà, ça fait ça, quoi. C'est du lourd, hein. Moore, en général, ça... Alors, il y a des petites pièces, hein, mais...
Et puis le côté invraisemblable du trou.
Ben oui, c'est ça, ça. Alors, qui rappelle d'autres créateurs de ce temps. Hein.
Et c'est lourd, mais c'est en même temps léger.
C'est ça, absolument. C'est tout à fait juste, oui. C'est-à-dire, c'est lourd et léger. C'est lourd parce que, bon, que c'est de la pierre, que c'est grand, que...
Oui, c'est évidé.
Voilà, le côté évidé, etc., fait que là, c'est lourd et léger, absolument. Léger. Bon, on verra tout à l'heure, mais enfin, là aussi, vous avez trouvé le... Finalement, vous en connaissez pas mal, hein. Mine de rien. Voilà, vous ne connaissez pas, mais.
C'est une tresse.
Ah, c'est une tresse.
Avec des vrais cheveux.
Avec des vrais cheveux.
Comme le livre de la tresse.
Oui. Oui, une vraie tresse avec des vrais cheveux. En fait, il n'y a pas que ça.
C'est quelque chose de livre.
Il y a une plaque.
Il y a une plaque métallique.
Une plaque métallique. Si vous avez une plaque métallique. Une plaque métallique, et puis qu'est-ce qui se passe donc ?
Il y a
deux cheveux. Voilà, il y a une tresse de cheveux qui passe au travers de la plaque métallique. La tresse est en fait après la
boucle. Vous voyez ce jeu ? Elle est passée voilà. Dans la boucle
c'est
et
ça.
Après est tressée.
Voilà.
Il y a deux trous. Oui.
Ah, oui. Mais, voilà. Donc c'est l'idée, la suggestion, c'est quoi ?
Ça c'est très féministe. La femme est invisible, on ne voit que ses cheveux. Et c'est là que c'est comme ça, c'est la chevelure qui fait sa féminité, c'est la seule chose qui montre que c'est une femme. Mais pour le reste, elle est invisible.
C'est-à-dire que ce serait une œuvre d'une femme ?
Oui,
ouais.
ça pourrait être une femme.
Oui,
c'est pas obligé.
On va voir. Ou alors c'est un homme qui s'intéresse aux questions liées à la femme. Parce qu'il y en a.
Il y en a pas qu'il a fait des
essais. Je fais le porte-parole de ces messieurs ici présents.
C'est un coiffeur qui a fait des essais.
Même si on est minorité, quand même.
Un autre fétiche
qui
fait
une coupure
de
nappe. Oui.
C'est un coiffeur qui a fait des
essais. Oui, alors ça dit un peu ça aussi. Vous avez raison, il y a un peu ça aussi. Oui.
C'est un coiffeur qui a fait des essais.
Oui, c'est un peu ça. Il y a un côté véhiculant planche de coiffeur. Bon, puis qu'est-ce qui ressort peut-être aussi de cette...
C'est peut-être un cheval.
Ah.
Et
en tresse, c'est bien des cheveux. Enfin, on peut.
C'est pas comme ça. Non. C'est un élément humain.
Oui, c'est un élément humain. Et qui est sur un élément pas très humain.
Non, mais là, il y a un contraste.
Et qu'est-ce que ça vous donne comme impression, ça ?
On peut aussi imaginer qu'il y a une femme qui est coincée derrière.
Ouais.
Qui
oui, oui, ben oui. C'est ça.
Oui, mais elle est ligotée en même temps.
Oui, ben oui. Oui, oui. Oui. Oui, et ça, et donc, évidemment, il y a le côté un peu coincé derrière. Oui. Parce que rien n'est plus diaphane, léger, qu'une tresse de cheveux, en l'occurrence féminin en plus. Hein. celui-là, c'est pour moi, c'est spectaculaire. Et une plaque métallique qui est dure, rigide, froide. Enfin, c'est vraiment les deux contraires.
Et lui, c'est l'autre.
Un contraste de matière.
Un contraste de matière, oui, vous disiez. Oui, tout le temps. Oui.
Et une symétrie aussi.
C'est oui. Ben, oui, disons que tout est concentré sur l'effet, parce qu'il n'y a rien d'autre, hein, de cette tresse de cheveux qui passe à travers des trous faits dans une plaque un peu lourde, hein, métallique. Quoi.
Et le haut de la tresse est défait un petit peu, on dirait un cœur.
Ah, ça c'est votre côté romantique, qu'est-ce que vous voulez.
C'était hier.
On vous reconnaît bien là.
Mais c'est pas vraiment une trace, parce qu'une trace, ça se fait avec trois bras.
Oui,
il y a trois bras.
Il y en a trois. Là, ma connaissance des tresses, c'est assez limite.
C'est des cheveux, quand même.
C'est des cheveux. En fait, ce que j'entends dans ce que vous pointez, c'est le côté un peu, d'abord curieux, hein, bizarre, mais là aussi un peu comme le mannequin de tout à l'heure, la poupée, un peu gênant. Voilà, décidément. Effectivement, on se demande si la personne n'est pas coincée derrière, quoi. Voilà, il y a un côté un peu de torture, je dirais.
Oui, c'est pas une
poupée. Pardon ?
Poucheveux, poupée.
Oui. Dans les corps. Absolument, il y a un côté comme ça. Hein. Donc quelque chose de dur, quelque chose de suggestion, de dureté, de cruauté presque. Ouais.
Donc c'est négatif, on l'appelle stress.
Stress. Alors, avant, après. Et un nom, patron. Bon. Alors.
C'est une sculpture.
Oui.
Quelle matière?
C'est une sculpture.
Quelle matière?
Alors, je crois, mais je me rappelle plus forcément. Je crois que c'est du bois, et je crois que les. Alors, c'est vrai que c'est du bois et du bois peint. Mais qu'est-ce que vous remarquez?
Géométrique.
Très coloré. Très anguleux.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'on
parle. C'est un jeu de patience.
Alors, pour les sculptures, regardez bien.
C'est en relief.
C'est en relief. C'est des ailes. Voilà. En fait, c'est un bas-relief. Et un bas-relief spécial en plus.
Il fait penser au collage quand même.
Ça fait penser au collage. Mais c'est un relief, c'est-à-dire que ce n'est pas plan du tout. D'ailleurs, vous voyez, il y a des ombres. Vous voyez les ombres qui montrent qu'il y a deux niveaux, c'est un relief. Et en plus, ce relief, il y a une particularité que peut-être vous pouvez deviner. Alors, il y a le support blanc sur lequel sont peints des formes, sur lequel sont accrochées d'autres formes qui font penser à celles du fond, mais qui sont indépendantes. Mais ces éléments en relief, il y a une chose en plus. Vous ne pouvez pas deviner comme ça, mais que vous pouvez peut-être deviner quand même. Et avec ça, vous allez vous retrouver.
Et bon, elles s'emboîtent, hein,
Non, elles ne s'emboîtent pas.
On peut les déplacer.
On peut pas nous les déplacer.
On peut glisser des choses.
On peut, non, parce que vous allez vous faire engueuler par le garde.
C'est pas drôle. L'auteur peut les moduler.
Pas l'auteur, mais...
Tout seul, ça bouge tout seul.
Ça bouge. Ça bouge. Et en fait, vous avez un petit moteur qui fait que les éléments en relief que vous avez, ils bougent. Alors, selon des... Alors, je ne l'ai pas vu bouger, mais selon des... Il n'est pas sûr que tout bouge en même temps, mais peut-être que si, je ne sais pas. Enfin, ça bouge. Et que les éléments en relief, si vous voulez, qui se détachent de 2-3 cm quand même, hein, bougent. Donc, il y a une espèce de contraste entre le fond qui n'est pas, qui est blanc, et le devant qui, voilà, qui est vert, et le devant qui bouge.
Alors, c'est un tinguely en bois.
Pardon ?
Un tinguely en bois.
C'est une sorte de tinguely en bois. Ouais. Par rapport à des choses qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que ça peut vous rappeler des choses, justement ?
Bah, plein de choses qui pouvaient bouger.
Plein de choses qui pouvaient bouger. Hein. Moi, je me rappelle de voilà, le premier, hein, vous savez, l'espèce de pluie de barres qui bougeait. Je me rappelle également de l'œuvre diaphane, vous savez, voilà, notre bouquet de fleurs métalliques, hein, qui sans doute bougeait un peu aussi.
Il n'y a pas un mouvement qui s'appelle le cinétisme.
Le cinétisme.
Ça existe, ça.
Ouais. Ce qu'on appelle l'art cinétique, effectivement. Donc là, on aurait une chose cinétique. Et peut-être avec bah, les deux autres choses que l'on évoque. Ok. Un nom. Avant, après.
Après.
Après. Un nom. Non.
Toujours pas arrivé.
Toujours.
C'est du bois.
Oui. Donc effectivement, on voit deux personnages enlacés.
Il y a une vague colonne.
Beaucoup de courbes. Suffisamment de droite aussi.
Il y a un bout de colonne.
Ouais.
C'est un côté massif.
Oui. Ouais. Ouais. Oui, un côté un peu. Oui, il y a un côté sculpture du Moyen-Âge qui aurait été comme ça assemblé. Oui. Et ça, ça vous rappelle des choses
un coup... Le taureau tout à l'heure.
Le taureau tout à l'heure.
Oui, je pensais à Klimt, le baiser Klimt.
Ah oui,
je vois. Ça fait penser aux formes massives de Picasso, ça.
Oui.
De son époque.
Les grosses figures féminines, oui, un peu, elles sont comme ça.
Voilà.
Ouais. Ouais.
On dirait qu'il y a des éléments d'architecture.
Ah oui, 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 on a l'impression qu'il y a un côté structuré dans tout ça. Hein. Oui.
Ça vient de tout par en haut, oui.
C'est-à-dire qu'on pourrait presque couper en deux, là. Je crois que c'est le plus traditionnel. Le personnage
oui.
Devant est plus travaillé que le personnage à l'arrière.
Oui.
Plus figuratif.
Alors, tout dépend peut-être aussi un peu du côté où on se met, parce que là, on peut tourner autour, voilà. Bon, ça dit, ça reste du figuratisme qui est, j'allais dire, structuré par des lignes et des courbes, quoi. Hein. On voit ce que ça représente, mais en même temps, c'est très géométrisé.
C'est un peu expressionnisme.
Oui, ça vous fait avant tout penser à ça.
Aux expressionnismes,
oui. Ok.
Est-ce que c'est pas une Pietà?
Je ne pense pas, mais je vois ce que vous dites, un homme assis ou une femme assise, et quelqu'un plus ou moins sur ses genoux, l'idée d'une Pietà.
Elle pleure, elle est triste.
Ou elle crie,
ou elle le regarde, on ne sait pas, parce que le visage, est, on ne le voit pas, le visage est
caché devant toi.
Il est coupé le visage. Mais il n'empêche que le monsieur, il est plus brut que la dame.
Oui.
Si on regarde ses mains, la main, elle n'est pas sculptée, la tête n'est pas sculptée non plus, la colonne du haut, elle n'est pas sculptée non plus.
C'est très géométrique hein, quand même. Hein.
Oui, c'est géométrique, mais pas de relief. C'est dessiné.
Plat. Oui, c'est un côté plat. Ouais. Et ça vous intéresse. On a parlé d'expressionnisme tout à l'heure, mais vous ne pensez pas à un autre courant qui correspondrait bien à ce que vous dites, c'est-à-dire plat et en même temps géométrique comme ça.
Le cubisme.
Oui.
Parce que le visage au-dessus fait très cubiste.
Oui, moi je trouve aussi, un visage du dessus, vous voyez, on a une espèce de visage, tout est plat, et ce qui fait que ce n'est pas plat, c'est effectivement ce qui est dessiné, comme vous disiez, dessus. Quoi. Alors, avant, après.
Avant.
Un nom. Je vais un peu plus vite parce qu'on en a quand même encore à voir. Hein.
Là, c'est la map-monde.
Une map-monde.
C'est du bois.
Je crois que c'est essentiellement du bois. Ouais, ouais.
C'est joli, ça regarde à l'œil.
Oui.
C'est très, très grand, non ?
C'est grand.
C'est un paravent.
C'est un côté paravent.
Oui, on voit
l'articulation. Et puis alors, il y a quelque chose concernant. Ces petites choses-là.
Oui, c'est quoi ça ?
C'est dynamique.
C'est dynamique.
Ça fait penser à...
Ça bouge. Ça bouge.
En fait, ça bouge. Ces petits tétons de bois bougent.
C'est
bouge doucement. Ils sont accrochés à l'arrière, mais ils bougent.
Et à part un mécanisme motorisé ?
Oui, oui.
Il y a une soufflerie qui les voit plus.
Non, c'est un moteur qui est à l'arrière, on a même plusieurs, qui font bouger les petits, ces petites bandes de bois, si vous
voulez.
Pardon ?
Aléatoire.
Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est aléatoire. Oui, parce que je crois qu'à part faire ça, ça ne peut pas faire grand-chose, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne se balade pas sur tout l'eau, mais ça bouge, quoi. C'est donc pas, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui bouge doucement, comme ça. Un peu comme un feuillage qui serait agité, comme ça.
Ça fait penser, alors je ne sais pas si regarder, mais dans le dynamisme, moi ça m'a fait penser aux grandes toiles de Matisse collées sur la danse.
Je vois ce que vous voulez dire, oui.
Qu'il y a un dynamisme qui s'apparente à ça.
Mmh. Je vois ce que vous voulez dire, c'est un côté mouvementé de... Alors peut-être que la différence, c'est quand même l'idée de la couleur, qui chez Matisse est tellement importante. Hein. Mais le dynamisme, il dit... Alors, si vous voyez ça bouger, l'idée dynamisme est peut-être moins évidente, parce que ça bouge, mais ça bouge très lentement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des espèces de petits machins, comme ça, qui bougettent. Vous voyez, c'est des petits mouvements.
Ça fait du bruit ?
À mon souvenir, on entend, on peut entendre un petit bruit de moteur qui fait un peu au fond, mais c'est pas un bruit très fort. Là aussi, vous rapprocheriez ça de quelque chose qu'on a déjà vu. Toujours la cinétique.
Après.
Donc après.
Encore une
femme, une Vénus. Donc on aurait quelque chose qui nous rappelle ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oui, c'est finalement on a Mayol, Mour et ça. Hein, il y a toujours la vieille idée, la représentation féminine, mais qui va en se, je veux dire, en se concentrant de plus en plus. Hein. Oui, c'est vrai que ça fait penser à ça. D'ailleurs, tous ces artistes ont beaucoup regardé ça. Et puis, ça fait également penser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des œuvres préhistoriques.
Oui.
Et souvent, il y a beaucoup de Vénus en primaire préhistorique, donc vous n'avez pas la tête, mais uniquement des seins, ou on ne pas de seins, mais uniquement le bassin et la tête. Enfin, voilà. Là, on a choisi des éléments, et on ne sait pas si c'est des yeux ou les seins. Enfin, voilà, il y a des éléments comme ça.
C'est dentaire, oui.
Sans terre. Sans terre. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient en terre, justement, va un peu dans ce sens. Alors, ces idoles sont souvent en pierre. Hein. Enfin, il y en a également, ça dépend des périodes, ça dépend des lieux, en terre, justement. Et là, ça se rapproche aux vieux fonds méditerranéens, des petites Vénus en terre. On a à Malte, de Madame Mirabe, par exemple. Oui, il y a ce genre de choses. Hein. Et alors là, vous avez une idée d'un nom et de camp. Compliqué, hein.
Après.
Oh, quand vous le saurez, après, quand vous le saurez, vous direz, oh, bah oui. Alors, là, qu'est-ce qu'on dirait? Une espèce de... Ouais.
Un être.
C'est du métal. L'importance du socle, là aussi.
Ah ouais, c'est en pierre.
Pierre.
Un être enchaîné.
C'est quoi? Une sorte d'homme enchaîné. Alors, on ne sait pas s'il est enchaîné ou s'il
joue.
Voilà, on ne sait pas s'il est enchaîné ou s'il joue avec ses espèces d'élastiques métalliques.
Ouais, c'est...
Ouais.
Il est presque aussi fin que les filles.
Oui.
C'est l'opposition entre la maigreur de l'homme et le socle énorme.
Ah oui, l'opposition entre ce socle énorme et le personnage. Et ce personnage, vous disiez qu'il faisait penser un peu à animal. Quel genre d'animal d'ailleurs?
Un chien.
Un chien. Un renard.
C'est la bête du Gévaudan.
Je trouve même qu'il y a un côté insecte, moi.
Oui.
On dirait presque qu'il est en train de tisser une toile d'araignée. Oui, voilà, une montre religieuse. Regardez ses doigts qui ont l'air de ne pas en finir.
Enfin. Oui, mais pas la tête.
Non, la tête est plutôt, je ne sais pas, renardesque. Oui, loupesque.
Ça fait un peu cirque aussi.
Un peu cirque. Une époque, une, un nom.
Avant.
Avant.
Après.
Après. Bon. Bah. Et un nom. Non.
Non. Ça, c'est d'Avenus.
Ah, l'Avenus de Milo, tiroir, on en a parlé tout à l'heure. L'auteur, oui, vous le connaissez, c'est Salvador Dali. Et vous avez déjà dit ce qu'il en était.
Surréaliste.
Voilà. Bon, en deux mots, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi? Oui.
La femme a plusieurs
facettes. Oui. Alors, il y a peut-être évidemment des tas d'idées de ce genre, hein, philosophico, psychanalytico, je ne sais pas quoi. Mais l'idée déjà première, je dirais, esthétique, c'est quoi finalement?
Ironiser sur une
première. Voilà, c'est un peu une sorte d'ironie ou de réflexion sur le parangon de la culture classique qui est la Vénus de Milo. Vénus de Milo, c'est évidemment. Pardon?
Il désacralise.
C'est ça. La Vénus de Milo, c'est le totem de la culture occidentale. Hein? On pense culture occidentale, on pense Vénus de Milo et Mona Lisa. Donc, c'est les deux totems indépassables. Or là, il s'attaque à un de ces totems-là pour effectivement lui faire des tiroirs dans le bide, ce qui est évidemment assez curieux. Et en plus, vous avez vu, il y a des petits chouchous, des petits pompons, qui sont d'ailleurs en vison. Hein.
Non,
c'est pas. Non, la couleur, c'est athlétique. Hein. C'est Dali, quand même. Hein. Des petits machins de vision, mais qui font penser à ces choupettes qu'on a pour se poudrer un peu. Oui. Enfin,
alors, non,
des houppettes. Des houppettes. Des houppettes. Ah, mais c'est à cause de vous, ça. Voilà. Des houppettes qui. Voilà, qui donne évidemment un côté un peu ridicule, quoi, à cette icône sublime. Donc ça, c'est évidemment très, très surréaliste. Vous avez... Bien. Donc là, on a trouvé, on sait qui, on sait quoi, on sait quand,
ça
pas de problème.
Aujourd'hui, ça serait très politique. Hein. Les écolos sont passés par là.
Oui, oui, oui.
Et la fourrure.
Et la fourrure.
La fourrure surtout. Encore une chose, c'est éthique. J'entends le nom Calder.
Non.
Tinguely, peut-être. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs là?
Ça bouge.
Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs en bougeant?
Ça fait du bruit.
Ça fait du bruit. Et bien regardez ce qui se passe aussi.
Ça écrit,
voilà, ça dessine. C'est-à-dire que c'est une machine qui fait sa propre œuvre. Donc la machine, c'est elle qui elle-même, si vous voulez, dessine. Voilà. Oui. Donc vous avez raison, c'est Tinguely ou Tinguely, comme vous. Ah, j'entends un nom.
Brancusi.
Très bien. Ah, vous voyez, finalement, vous connaissez là au moins la moitié. Hein. Alors, oui, en deux mots, qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Il y a un socle.
Alors, l'importance du socle. Hein. On a déjà dit de l'heure, maintenant, le socle, c'est plus le truc qui sert de faire l'œuvre. Le socle fait partie de l'œuvre. Hein. Et là, vous avez un élément, deux éléments, trois éléments, quatre éléments, trois en bois, un en pierre, qui font partie du socle.
C'est tout en zigzag.
Tout en zigzag, le socle, oui.
Mais partout.
Et même l'élément dessus. Donc vous dites que c'est un oiseau, mais un oiseau.
Il y a une belle aile qui s'envole. Une aile d'oiseau.
En tout cas, en métal doré, peut-être. Ouais. Alors, c'est pas de l'or, hein, mais c'est un métal qui, quand il est poli, a cette. Il faut bien le polir, mais a cette. C'est du bronze. Le bronze poli, c'est ça. Ouais. Donc là, le but de Brancusi, vous avez cité son nom, c'est lui. C'est quoi?
La fluidité, la légèreté.
Pardon?
La fluidité, la légèreté.
C'est tout ça, effectivement. Il y a une espèce de tout à l'heure, vous parliez d'épure. Là, c'est vraiment le cas. Normalement, c'est quelque chose qui est limité à sa pure expression, je dirais.
Baleine qui vole.
Voilà, c'est un oiseau. Alors, vous allez voir que c'est un oiseau qui n'est pas tellement volant, pourtant. Hein. Mais un oiseau quand même.
Mais ça passe du plus lourd ou plus léger.
C'est ça. C'est ça.
La couleur.
C'est ça. Alors c'est ça, la couleur compte, les matériaux comptent, une espèce de sommet, une espèce d'épure dorée, une sorte de flèche.
Est-ce qu'il y a une courbe ou un arrondi qu'en haut ?
Oui, oui, oui.
Tout le reste est clair.
Oui, oui. Oui, oui.
Surface.
Oui, oui.
Moi, je pense que c'est du laiton.
Alors, sur la fiche de l'œuvre, il est dit bronze. Bronze poli. Et c'est vrai que le laiton donne un. Là, il est bien dit bronze, j'ai vérifié. Et, bon. On va écrire à Beaubourg, parce que c'est neuf qui est à. Encore une étagère. Alors, un peu plus désordonnée que la précédente.
Un
bas-relief. Un bas-relief. C'est en bois.
Ah, c'est du bois.
C'est du bois. Non, c'est du bois. Du bois. Enfin, moi, je me trompe, on verra tout à l'heure les jardins, mais normalement, c'est du bois. Ah, bien,
mais il y a des éléments collés dessus.
Voilà. Bah, c'est des éléments collés, pas. Et alors ?
Voilà.
Un placard. C'est grand, hein? C'est comme ça, hein? Très grand,
hein? Oui.
Alors, c'est avant, c'est après?
Après.
Une idée d'un nom? Non. Voilà, on va petit à petit. Vers la fin.
C'est un guerrier.
Une sorte de guerrier. Vous en rapprocheriez ça de quelle œuvre qu'on aurait vue avant, par exemple ?
Le trou et le. Non, l'homme
avec la femme.
Non, à la faucille.
À la faucille.
Non.
Ah ben personne n'est d'accord.
Non, bah c'est l'homme araignée ou avec
la. Ah, l'homme araignée, d'accord.
Avec la tête de renard.
D'accord. Ok.
Plutôt dans ce mouvement-là. Oui, parce que il a une casquette.
Donc vous mettez ça plutôt après, parce que le rat de l'araignée, vous le mettiez avant ou après ?
Après,
donc là aussi.
Oui.
Là non plus, je sens pas de nom arriver.
Non.
Ça, c'est un golfe. Donc effectivement, c'est des morceaux de bois, hein, posés.
C'est des poutres assemblées.
C'est ça.
Alternées.
Et là aussi, ça vous rappelle une chose qu'on a vue ?
C'est massif.
Massif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'accumulation,
un peu. Ouais. La chose qu'on a vue juste avant.
Ah,
le grand cousin. Ça avait été au niveau du socle, ça fait penser à mon cousin. Mais moi, ça me fait penser, mais ce n'est pas du tout les mêmes matériaux, à une autre œuvre qu'on a vue. Matériaux très différents.
Les matériaux de récupération, ça, non ?
Pas forcément.
Les étagères.
Oui, aux étagères. Oui, voilà. Là, finalement, vous démontez votre étagère, ça donne ça. Exagère. Et c'est aussi minimal. Hein. L'étagère, c'est bing, 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 bing. Là, c'est choc.
Et sans alterner.
Oui.
Très géométrique.
Très géométrique.
Et bâtiment.
Pardon ?
Une idée de bâtiment.
Oui. Oui, oui, de construction.
De mur.
Là aussi, une date, un nom, le nom.
C'est quoi, toi ?
Après.
Taille, c'est quoi la taille ?
Ouais, à peu près, ouais. Bon, là, tout le monde connaît. Ah. Donc ça, on connaît, on est en terra incognita. Donc là, ça va, Giacometti, pas de problème. Hein. Bon, on ne va pas parler sur Giacometti, on le connaît tous. Voilà. Super.
Ça bouge.
Donc c'est de l'art cinétique. Okay, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup.
Il n'y a pas des miroirs ?
Si, il y a des miroirs.
Ah oui.
Il y avait, alors là, le moteur fait un petit bruit. Oui, ça fait. Enfin, ça s'entend, quoi. Hein. Et ça tourne sur soi-même. Ça tourne de manière circulaire, si vous voulez. Mais les miroirs et autres tournent aussi. Donc, il y a des tas de petites choses qui s'allument à cause de la lumière. De la lumière relie par les miroirs.
On imagine un cliquetis.
C'est ça. Ça fait, c'est un peu l'impression que l'on a. Hein. Avant, après ?
Après.
Pas de nom ?
C'est comme
la femme. Ça ressemble à l'amour. Ouais. D'ailleurs, je voudrais présenter ça avant, peut-être vous auriez dit l'amour, justement. Là, l'amour. Pardon ?
L'enfant de bonne.
Oui.
On
n'a
pas l'air.
C'est du marbre. C'est du plâtre. Mais c'est du plâtre, oui, un plâtre poli, très bien. Mais l'artiste en question peut avoir fait ou avoir fait faire ce genre de choses en marbre. Hein. Ouais. Bon, je pense que là, vous voyez aussi la référence. C'est un peu toujours la même. Hein. C'est statuettes méditerranéennes en marbre, etc. C'est des esmets. Et voilà. On est toujours dans une espèce d'épure de la représentation du corps. Alors là aussi, un nom. Brancusi à nouveau, on en aurait deux.
Ah non, il y a deux au début, il n'y en avait pas deux.
Oui, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas deux pareils.
Et c'est grand comment ?
À peu près, hein. Eh bien, on verra. Donc un mobile, bon. Là aussi, vous connaissez tous, hein, une œuvre très typique de Calder, dont tout ça bouge, etc.
La tour, là.
Oui. Ah, on en a tous vu.
Sans moteur,
c'est l'air, le vent, voilà.
Ah, ça fait penser au premier, là, on le trouve.
Ouais. En plus gros, puis
en plus lourd.
Hein. Là, c'est du lourd. Là. C'est de la plus grande métallique. Pardon ?
Agressif, on a peur de se faire mal avec ça.
Oui, oui, il y a un côté. Ouais, on a
donc, c'est la couleur, coupant. Le rouge.
Ouais. Ah oui, le rouge, la couleur. Oui, oui. D'ailleurs, là où c'est placé dans cette galerie que vous reconnaissez peut-être, hein, avec ses murs très propres, etc., c'est un côté, un contraste. Hein.
C'est très industriel.
Très industriel. Alors là aussi, avant, après.
Après.
Vous me dites si vous avez un nom. Par contre, l'œuvre suivante, je crois qu'il n'y a pas de problème.
Nikita
Saint-Phal. Bon, là, on en a déjà beaucoup parlé la dernière fois. Hein, voilà. Je crois que c'est bon.
Une autre métamorphose.
En voiture.
Oui, regarde la tête, c'est ça.
Ça fait penser à la voiture singe de Picasso.
Non seulement ça fait penser, mais c'est la guenon et son petit de Picasso. Avec évidemment la tête qui est faite d'une voiture. Une petite voiture, c'est très Picasso. Hein. Il prend une voiture, ça fait penser à quelque chose, il l'intègre, en fait, la tête de sa guenon. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'œuvre originale. Parce que vous connaissez peut-être le tirage en bronze. Hein. On a plus une série. Ça, c'est l'œuvre originale d'après laquelle a été fait le tirage en bronze. Je ne sais plus si c'est de la terre cuite ou du plâtre. J'ai dû le marquer sur le cartel, on verra dans un instant. Souvent, donc, on fait évidemment l'œuvre.
Mais le plâtre, c'est fragile.
Oui, mais après, on le moule. Donc, on fait un moule d'après l'original en plâtre, et c'est dans le moule que l'on fait l'après l'original en plâtre qu'on peut tirer le bronze.
Mais le plâtre, on ne garde pas.
Ah, le plâtre, quand on peut. Le plâtre est quand même quelque chose d'assez solide, hein, on peut faire un moule d'après le plâtre. Ça, c'est tout à fait possible. Enfin, je vous dis ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Hein, les praticiens font ça sans problème. Une technique bien connue.
Pas facile à démouler.
Ah non, parce qu'il y a des. Souvent, d'ailleurs, le bronze doit être repris après. Voilà, c'est pas lisse. Hein. C'est une œuvre incroyable. Et ça. Oui, ça fait penser à un lit.
Ou des soldats ou
des
apôtres. Alors,
ou des moines, ou des soldats, ou des apôtres. Ou des œufs.
Vous avez pensé à l'œuf de César?
Ah, l'expansion qu'on a vue la fois dernière.
C'est plastique.
Alors, c'est du marbre. C'est du marbre. Et le sol est en bois.
Comme les poutres
de tout à l'heure, un peu brut. Là aussi, une date, un nom. Il n'y a pas beaucoup de dames dans tout ce que vous me dites là. Hein. À part Nick de Saint-Phal. C'est du métal, c'est une chauve-souris.
Ah
oui,
c'est
la réutilisation
de je sais pas quoi.
Ouais, on a l'impression qu'il y a
des tas de parasols.
Oui, c'est ça, ouais. Oui, on a l'impression qu'il y a effectivement
des.
Oui, c'est ça. Il y a des réutilisations de morceaux de métal.
Oui.
Là, ça vous rappelle peut-être quelqu'un?
Oui, l'homme qui avait des élastiques.
Ouais.
Ouais. Tout maigre là.
Ouais. Et une idée de sculpteur, de sculptrice.
Ça fait un peu penser aux araignées
de bourgeois. Alors c'est vrai que les araignées de bourgeois qui sont des œuvres très curieuses, très intéressantes, très dérangeantes. Ça, c'est effectivement une composition faite à partir de l'agglomération d'éléments métalliques préexistants.
C'est soudé.
Alors ça, c'était la dernière œuvre que je voulais vous passer. On va donc ramasser les copies, comme je dis souvent. Sachant qu'on s'est plus répandu sur les premières, et puis après on est allé un peu plus vite parce que l'heure tourne, et puis bien vu les premières. Là, je vous les passer dans l'ordre. L'ordre avant-après, chronologique, et avec la césure de la guerre entre les deux, parce qu'évidemment, dans les années 39-45, voilà, c'est quand même une époque un peu de creux, hein, que l'on comprendra aisément, même si c'est pas rien fait. Alors, là, la plus ancienne, en fait, c'est celle-là, qui est une de Pablo Gargallo. Pablo Gargallo, c'est un artiste qui a écrit Picasso et d'autres, hein, font partie des artistes espagnols qui viennent en France. Et Gargallo, c'est en fait quelqu'un qu'on peut vraiment placer dans la mouvance cubiste. Hein, vous savez, de ces gens qui finalement conçoivent la sculpture en reprenant, si vous voulez, l'idée de figure, mais qu'ils géométrisent, qu'ils simplifient, hein, qu'ils trouvent, pourrait-on dire. Et Gargallo fait partie de ça. Alors, en même temps, c'est quelque chose qui se regarde sous tous les angles, si vous voulez. Hein. Et vous avez à chaque fois des perspectives différentes. C'est une des choses intéressantes chez Gargallo, c'est que de face, c'est pas pareil que de profil, à chaque fois, c'est différent, du fait de cette espèce de creusement, et ça date de 33-36, hein, on est vraiment avant la guerre, et à vrai dire, cette sculpture-là, qui est de Zadkine, tous ces artistes, je vous dis, sont tous les jours, ils sont quasiment tous passés par la France. Hein. Je le dis parce que la France a été, là, on le creusait, de quantité d'artistes venant de l'étranger, qui venaient pour des raisons que vous imaginez, hein, la guerre, les conflits faisaient que les gens venaient, hein, et tous les artistes sont passés par la France. Donc la France a été un creuset extraordinaire. Hein. Paris est au milieu du XXe siècle la capitale des arts, grâce à ça. Hein. Et parce que les artistes vont tous là. Voilà. Et il y a une espèce d'ébullition extraordinaire. Hein. Donc Zadkine, une œuvre, vous l'avez dit, hein, très très cubiste. Alors c'est en relief, hein, mais c'est du relief cubisant, si j'ose dire. Avant la guerre aussi, cette œuvre de Brancusi, 35, Le Coq. Hein, voilà. Alors je crois qu'on a tout dit, hein, et notamment là, on a évoqué ce espèce de purisme qui est celui de, qui rejoindrait, vous savez, en architecture, des gens comme Le Corbusier, par exemple, vous voyez, le purisme des formes, alors, qui n'est pas une sorte de géométrisation absolue, hein, mais qui, Ali, vous l'avez bien dit tout à l'heure, la courbe et la ligne, en quelque sorte. Hein, voilà. Et puis avec cette espèce de pureté de matériaux très, très lisse. Et alors, c'est de cette époque, grosso modo aussi, que date cette œuvre, qui est de Hans Bellmer. Alors, qui est effectivement un surréaliste, qui a fait comme ça des tas de figures poupesques de ce genre. C'est vraiment un surréaliste, j'allais dire, désagréable. Hein, mais voilà, c'est une grande, grande figure de ce pays-là. On est en 35-36, hein, c'est un peu très bonne forme. Ça. Donc une œuvre assez, assez forte. Hein. Et c'est de cette période que date aussi cette œuvre fameuse de Dali, vous connaissez, hein, la Vénus au tiroir, que nous avons branché. Ça, c'est une œuvre de González, qui là aussi est un de ces artistes ibériques qui arrive en France pour des raisons évidentes. Là aussi, en fait, on a une œuvre très cubiste. Hein. Vous savez, je crois que c'est quelqu'un vous l'avait dit, vous savez, on a vraiment ces collages de Picasso où il y a un verre, une page de journal, etc. Là, c'est la même chose avec des instruments, ou des choses qui ressemblent à des instruments, vous voyez. Une espèce de... Il y a un côté assez plan. Et le fait d'ajouter comme ça de manière un peu aléatoire des éléments plus ou moins reconnaissables. Donc, et González est quelqu'un qui finalement fait en sculpture ce qu'au même moment Picasso fait, même un peu avant, en collage par exemple. Et puis effectivement, on a toujours avant la guerre hein, cette œuvre de Mayol, La Rivière, on en a beaucoup parlé, ou bien cette œuvre de Henry Moore. Figure à manger, dont on a aussi parlé. Hein. Et alors là, se place également ça, qui est une œuvre de Lipschitz, je crois que vous l'avez bien dit, on en a beaucoup parlé, mais qui effectivement prend un sujet traditionnel dans le monde d'Europe pour en faire quelque chose d'un peu particulier. Alors, on a bien parlé de ce mélange tradition-modernité. Hein. Jacques Lipschitz, voilà, c'est un. Alors, qui lui vient de alors, je ne sais pas si c'est par en Pologne, enfin, j'aurais dû marquer enfin, le pays d'où il venait, mais enfin, va travailler largement en France aussi avant de mourir en Italie. On est en 38, après ses 39, sans commentaire. Voilà. Ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est moi. Vous en prie. Oui, ça c'est réussi. Je suis assez content de moi. Voilà, alors après on a ça. Alors bon, Picasso, c'est un mouvement lui tout seul, si je veux dire. Une espèce de mélange d'ironie, de tout ce qu'on veut. Voilà, il y aurait des heures à passer sur cette œuvre-là. C'est bel et bien lui. Et là, c'est une œuvre d'une sculptrice qui n'est toute que jamais déchirée. Une sculptrice très intéressante, dont il vient d'y avoir le grand exploit à Bombo il n'y a pas longtemps. Hein. C'est très très intéressante. Hein. Et voilà, le diable Griffus de 52, on est juste après la guerre. Et j'imagine avec comme ça beaucoup de figures humaines, mais un peu insectiformes, un peu bizarres. On se gratte toujours dans une œuvre de Germaine Richier. Hein. Que ne vous confondrez pas avec Ligier Richer. Qui est un artiste, un sculpteur du XVIe siècle. Voilà.
C'est celle qui a fait le Christ qui est dans
la chapelle d'Assy. Tout à fait. Oui, il y a eu des tas de polémiques autour de ce Christ récent. Oui, absolument. Yakov Agam, un artiste tout à fait intéressant. Vous lui connaissez pas parce que c'est lui à qui Pompidou avait fait faire un salon à l'Élysée, qui est aujourd'hui au Musée national d'art moderne. Hein. C'est donc effectivement un artiste cinétique, très intéressant, hein, passionnant. Voilà. Et qui appartient à ce courant cinétique dont, effectivement, je vous ai montré pas mal d'autres œuvres. Alors, au milieu de tout ça, il y a notre Giacometti, bien sûr, voilà, inimitable. César aussi, la dernière fois, on a vu l'expansion, mais. Le César du départ, c'est plutôt ça. Et ça fait beaucoup penser à Germaine Richier, d'ailleurs. Hein.
Oui,
ce côté métallique, etc. Voilà, au départ, ces artistes-là sont un peu dans une sorte de mouchoir de poche. Hein. On est en 54. là, une œuvre d'un artiste grec qui s'appelle Takis, enfin, qu'on surnomme Takis, c'est pas Yannotis, Vassilakis, un artiste absolument passionnant que vous connaissez parce que vous qui allez à Paris souvent, et que vous peut-être avez déjà pris une espèce de route qui passe à part l'Arc de Triomphe sous la Défense, juste au-dessus, il y a une grande œuvre avec des quantités de mâts qui s'éclairent. C'est une œuvre qui est gigantesque, superbe, à mon avis, très très belle. C'est une série de mâts comme ça avec des lumières. C'est super, c'est très très beau. Et c'est une œuvre de Takis. Là, ça date de 55, hein, ça, presque 70 ans. Et voilà, c'est une œuvre de lui. Là, une œuvre d'une autre sculptrice américaine, qui s'appelle Louise Nevelson, qui fait une espèce de relief, avec des éléments. Ça ressemble effectivement à des placards mal rangés, ouverts. C'est curieux. Voilà. Donc ça, c'est un courant de la sculpture américaine bien particulier. Là, vous avez reconnu Tingley, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Et après, apparaît notre stère de bois, qui est une œuvre de Carl André, et qui, effectivement, évoque le grand minimaliste, hein, qui va se faire jour après la Deuxième Guerre. On est en 1860, hein, un moment où aussi beaucoup de choses vont bouger dans le landerneau occidental. Et donc, on est au début, finalement, de l'art minimaliste qui accouche après la Deuxième Guerre mondiale, hein, et qui est représenté par d'autres artistes. Alors, pas lui. Là, vous avez une œuvre de Hans Arp, très beau sculpteur, hein, mais qui est finalement, vous l'avez bien vu, a été à mettre dans la lignée des Mayol et autres Moors. Hein, très, très belle forme, éternelle, d'une certaine manière. Là, une œuvre de Calder, un de ces artistes plus ou moins cinétiques, hein, qu'on classerait dans cette mouvance-là, vous le connaissez bien, vous l'avez reconnu, et qui est finalement à la fois équivalent et complètement différent de Sir Anthony Caro, qui encore un artiste anglais anobli par la reine, et vous avez bien dit, hein, on est là devant une œuvre brutaliste, vous voyez, mais...
Il est noir après sa naissance.
C'est 2013, pardonnez-moi. Oui, une petite erreur. Oui. C'est 2013, j'ai du mal à dire. 2013. Voilà. Anthony Caro. On est quand même en 1962. Hein. Donc c'est très tôt. Hein. Bon, Nicolas Safal, on en a beaucoup parlé, vous la reconnaissez bien là. Hein. Beaucoup de choses à dire sur une œuvre telle que celle-ci. Ici, une œuvre de Nicolas Schoeffer, qui est évidemment un de ses artistes cinétiques, avec d'autres que nous avons vus ou que nous allons voir. Là, une œuvre d'un artiste américain appelé Donald Judd, qui est en fait un minimaliste comme Carl André, qu'on a vu tout à l'heure. Et là, une œuvre, là, vous ne l'avez pas reconnu, mais vous allez reconnaître, une œuvre de Juan Miró. C'est Miró, ça. Typique. C'est mérotypique. Mais ce genre de cercle un peu improbable, c'est des choses qu'on trouve dans les œuvres de Miró. Hein. Cette forme qui ressemble à tout et à rien, c'est vraiment une œuvre très... voilà. Qui est un don fait par Miró à Macht, d'ailleurs. Voilà. Pour tout vous dire, quand j'étais... Je fais une parenthèse, hein, je raconte ma vie personnelle, mais quand je dirigeais les musées d'Amiens, j'ai acquis cette œuvre auprès de la famille Macht. Pour le musée Picardie à Dieu, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui. Ça, j'en suis très fier. C'est pour ça que je le dis. Autant je ne suis pas fier de mes deux trucs de tout à l'heure, là je suis fier. Ça, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Jésus Raphaël Soto, artiste cinétique. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est un vrai courant. Hein, Schoeffer, Soto, notamment. Hein. Et là, on parlait tout à l'heure de Louise Bourgeois. Eh bien, voilà une œuvre d'elle. Qui représente, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, hein. Voilà des choses qui représentent, qui peuvent évoquer mille et une choses, dissibles ou indicibles d'ailleurs. Hein. Ça peut représenter des œufs, mais enfin des esprits pervers, vous verrez d'autres choses. Et ça, c'est Louise Bourgeois. Hein. Louise Bourgeois, voilà, l'auteur des araignées, est quelqu'un qui, j'allais dire, derrière ses œuvres, évoque toujours des tas de choses, et, j'allais dire, qui évoque les problématiques qu'elle a connues dans sa vie, etc. Donc, c'est ces œuvres qui sont à la fois très smart et très impertinentes. Ça, c'est Louise Bourgeois. Une bonne Française, hein, mais qui, vous savez, a travaillé une grande partie de sa vie à New York, et qui fait des œuvres tout à fait étonnantes. Et finalement, ça va assez bien avec Yannis Kounelis, un autre grec, beaucoup de grecs, qui réalise cette œuvre-là. Évidemment, on l'a bien analysé, une espèce de brutalité, hein, de cheveux féminins, si doux, etc. Et une espèce de plaque métallique, si désagréable. Et là, c'est une œuvre de Paul Bury. Alors, Paul Bury, vous connaissez sans doute, parce que quand vous allez dans le Palais Royal et que vous voyez les colonnes de Burel, vous voyez un peu plus loin, sous la colonnade, deux espèces de fontaines rondes, avec des bouboules qui bougent tout le temps.
Oui, c'est le même.
C'est le même. C'est Paul Bury. Et là, c'est pareil, les fontaines, on voit les bouboules qui bougent un peu, pas trop, mais vraiment, elles ne bougent plus. Là, c'est pareil, ça bouge, mais d'un coup, un peu plus, puis un peu moins. Enfin, voilà, c'est une espèce de mouvement, pas vraiment régulier. Et ça, c'est de l'art cinétique aussi. Voilà, je crois qu'à travers ça, on aura vu toute une série de courants, vous voyez, une sorte de... On a vu des choses, la dernière fois, on a vu des choses dans du pop art. On a réévoqué deux, trois petites choses, surtout à partir de certains artistes, hein, comme Nikita Saint-Phal. On a vu surtout des choses cinétiques, des éléments plus traditionnels. On a vu comment le cubisme transformé en sculpture, que sais-je encore. Bref, je crois qu'on a là une sorte de ligne rouge qui va nous permettre, dans les séances suivantes, de voir, mais cette fois plutôt dans la peinture, comment peut-être on retrouve des choses un peu équivalentes. En tout cas, je pense que la séance d'aujourd'hui était assez structurante pour essayer de voir, sur 50 ans, hein, comment se développaient les productions plastiques du milieu du siècle. Et ben voilà.
Merci.
Bravo à vous. Moi.